Bienvenue sur les podcasts de Blast, un média indépendant créé pour redonner du souffle à l'information. Blast vous propose un autre regard sur l'actualité, à travers des reportages, des décryptages, des enquêtes et des entretiens que nous avons décidé de convertir ici en podcast. Notre ambition, devenir votre média de référence et ainsi peser dans la bataille de l'information qui s'annonce et qui sera décisive. Les podcasts de Blast, l'international avec Soumaya Benaïssa.
Chaque soir, et depuis vendredi, à chaque rupture du jeûne, c'est le moment où la prière cède la place à la confrontation. Les jeunes Palestiniens affrontent la police israélienne qui ne ménage pas sa réaction.
C'est un duel qui se déroule dans les airs. À gauche sur cette photo, les missiles israéliens destinés à faire exploser en vol les roquettes du Hamas. Les voilà à droite, dans une gerbe enflammée. Les missiles sont la principale arme utilisée par le Hamas pour frapper Israël.
En représailles à des tirs de roquettes en provenance de Gaza, Israël a bombardé l'enclave palestinienne, faisant 22 morts, dont 9 enfants et plus de 100 blessés, selon le Hamas.
Donc, vous allez avoir un cessez-le-feu bientôt.
Un calme, mais précaire.
Et puis, le conflit reprendra. Voilà.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien international de Blast. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur une région, le Proche-Orient, et le décryptage d'un conflit, le conflit israélo-palestinien qui signe son retour sur la scène médiatique et diplomatique. Mais les dernières images et les derniers chiffres jettent une lumière crue sur la réalité d'un drame humain, palestinien et israélien. Nous allons en parler avec mon invité Pascal Boniface. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS, directeur et fondateur de l'IRIS. Vous avez consacré un certain nombre d'ouvrages à la question qui nous mobilise aujourd'hui. Avec vous, nous allons décrypter, démêler les ressorts historiques, politiques et géostratégiques de ce conflit. D'ailleurs, j'emploie le terme de conflit. Est-il, à votre avis, adapté à la situation dans sa complexité et dans sa réalité?
Ben oui, c'est un conflit, il y a des morts. Donc, c'est un conflit qui a des périodes d'intense et des périodes de basse intensité. Et là, on est en période de très haute intensité, effectivement. Alors, bien sûr, on dit souvent, c'est vrai qu'il y a des conflits qui sont beaucoup plus mortels, qui font beaucoup plus de dégâts humains, qui tuent beaucoup plus de monde que le conflit israélo-palestinien. Mais celui-ci est ancré dans le paysage depuis très longtemps. On ne voit franchement pas tellement d'issue possible. Et régulièrement, eh bien, il vient créer des drames dans la région et, j'irais, créer des tensions chez nous. Parce que on parle souvent, attention, faut pas importer le conflit, mais non, il est importé le conflit. Donc l'enjeu serait plutôt de limiter les effets délétères, les effets les plus négatifs de ce conflit. Mais nous vivons avec ce conflit et nous sommes confrontés à ce conflit. Alors des fois, il est un peu oublié parce que les choses sont calmes, mais il n'est pas résolu, puisqu'il n'y a pas de paix véritable. Mmh. Et tant qu'il ne sera pas résolu, on connaîtra des périodes de poussée de fièvre, comme nous venons de les connaître dans ces derniers jours.
Alors, à ce stade, on peut dresser, pour commencer, un bilan provisoire. Côté palestinien, 213 morts, dont 60 enfants. Côté israélien, 12 morts, dont un enfant. 3400 roquettes ont été, à ce jour, lancées par le Hamas. Tsahal continue ses bombardements sur la bande de Gaza. Une catastrophe sécuritaire qui se transforme en catastrophe humanitaire. Est-ce qu'on peut parler d'une escalade militaire inédite depuis 2014? Pascal Boniface.
Non, ça a été pire en 2014, puisqu'on était à 2200 morts, je crois, en 2014, aussi en 2009. Donc pour l'instant, on n'a pas atteint le nombre de morts que l'on a eu déjà atteint dans des périodes, des précédents conflits de ce type. Mais par contre, effectivement, on voit bien ce scénario qui se déroule. Tirs de roquettes du Hamas qui font quelques dégâts, là, ils ont fait des morts. Et ensuite, intensification des bombardements israéliens qui font ce qu'on appelle des dommages collatéraux, ce qui est un mot pour ne pas dire bavure, parce que les Israéliens disent qu'ils visent des cibles militaires, mais il y a quand même toujours des civils qui sont les victimes. Et tout d'un coup, on arrive à un cessez-le-feu, soit parce que le nombre de morts a été atteint, soit parce que chacun des protagonistes peut dire « ça y est, j'ai atteint mes buts » et peut dire à sa propre opinion finalement, il peut sortir la tête haute du conflit. Et je pense qu'on va assister de nouveau à ce scénario. Le problème, c'est qu'il y aura un cessez-le-feu. La seule question qui se pose, c'est de savoir combien de morts avant le prochain cessez-le-feu.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou vient de s'exprimer et de dire qu'il n'excluait pas de venir à bout du Hamas si la dissuasion échouait. Comment vous interprétez cette
C'est une déclaration à destination à la fois de l'opinion internationale et surtout de l'opinion israélienne. Mais Israël pourra multiplier les bombardements, ils ne viendront pas à bout du Hamas. Parce que le Hamas est, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on en pense, fortement enraciné dans la société palestinienne. Et justement, d'ailleurs, la politique israélienne a fait beaucoup pour enraciner le Hamas dans la société palestinienne. D'une part, c'est les Israéliens qui ont aidé à sa création au départ pour concurrencer l'autorité palestinienne qui était laïque et qui ne plaisait pas du tout. C'était une sorte de maître de concurrence. Et ensuite, le fait de ne pas donner de voix à l'issue diplomatique. Mahmoud Abbas essaye de négocier depuis 2005. Il n'a strictement rien obtenu depuis 2005. Donc, ça renforce le Hamas, dont il faut rappeler qu'ils ont commis des attentats suicides après les accords d'Oslo, que le Hamas était opposé aux accords d'Oslo, que le but du Hamas était de faire dérailler le processus d'Oslo, comme d'ailleurs Netanyahou. Là-dessus, ils ont, ce sont pas des alliés, mais ils avaient des objectifs communs de faire dérailler le processus d'Oslo. Ils y sont parvenus, tous les deux, chacun de leur côté. Mais malgré tout, le Hamas restera, sauf à détruire Gaza. Disons que Israël et Netanyahou peuvent affaiblir le dispositif militaire du Hamas, il ne peut pas éradiquer le Hamas.
Alors justement, qu'est-ce qui explique selon vous l'entrée en jeu du Hamas, puisque cette mobilisation au départ elle naît dans la société palestinienne, c'est la jeunesse qui se lance dans des protestations régulières contre la police israélienne et qui cristallise ces protestations autour de deux sujets, disons les barrières qui ont été installées par la police israélienne pour empêcher l'accès à la porte de Damas, qui est un lieu de rassemblement populaire pour les Palestiniens, et puis aussi sur fond d'expulsion imminente de familles palestiniennes dans à Sheikh Jarrah, donc toujours à Jérusalem-Est, au profit de colons israéliens. Donc, c'est des protestations qui ont cours tout au long du mois d'avril, qui se sont poursuivies début mai, où la jeunesse vraiment se mobilisait pour avoir des réponses concrètes à ces protestations. Et cela a culminé donc le lundi 10 mai au soir, lorsque la police israélienne a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, avec les conséquences que l'on connaît. Et finalement, le Hamas s'est engagé dans ce lancement de première salve de roquettes ce soir-là. Est-ce qu'il défend ou est-ce qu'il récupère justement cette
Il récupère un mouvement dont il n'est pas la naissance. Les jeunes qui se sont mobilisés à Jérusalem ne répondent pas aux appels du Hamas. Ils ne sont pas des membres du Hamas, ce sont des gens qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas d'issue, qu'ils n'ont pas de perspective, parce que les jeunes Palestiniens n'ont pas de perspective politique et qu'ils se sont aussi sentis abandonnés par Mahmoud Abbas et par l'autorité palestinienne qui a repoussé les élections au prétexte qu'Israël n'aurait pas permis que l'on vote dans Jérusalem-Est.
Qui
devait avoir lieu prochainement, mais en même temps, Mahmoud Abbas a surtout reporté les élections pour ne pas les perdre. Et donc le Hamas a vu un créneau, a vu une fenêtre de tir, si j'ose dire, pour s'affirmer comme étant ceux qui, contrairement à Mahmoud Abbas, défendent réellement Jérusalem, défendent réellement les Palestiniens. Ils ont lancé ces roquettes en sachant qu'ils n'obtiendront jamais une victoire militaire. Et en sachant qu'il y aura une riposte israélienne, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, mais pour s'afficher comme étant ceux qui tiennent tête à Israël.
D'ailleurs, comme vous le disiez, le script est connu d'avance. Puisqu'on parle du Hamas, on va repréciser un petit peu ce que c'est que la bande de Gaza. C'est quand même 2 millions de personnes qui vivent sur 340 km² à peu près. C'est la plus grande prison à ciel ouvert, c'est ainsi qu'on la nomme, avec une population donc très appauvrie, des coupures d'électricité, une eau polluée, donc qui vit dans une forme de catastrophe humanitaire dont l'ONU s'était déjà alarmée en 2012, un chômage de 50% qui touche à 70% les plus jeunes des Gazaouis. Donc le script est connu d'avance, les conséquences de cette entrée en scène du Hamas sont quand même assez graves. Est-ce que vous pensez que ça justifie un peu cette idée, d'une certaine manière que reprochent les Israéliens au Hamas de prendre en otage la population gazaoui.
Oui, effectivement, le Hamas savait que ces lancements de roquettes seraient suivis de frappes israéliennes. Mais si la population de Gaza est prise en otage, alors bien sûr, elle est soumise à un régime très dur de la part du Hamas, qui est un régime répressif, radical. Mais le blocus, c'est pas le Hamas qui le fait. Et si Yossi Begin, qui était un leader de gauche israélien, avait averti en 2005 lors du retrait de Gaza que si son retrait était fait de façon unilatérale, le Hamas prendrait le pouvoir, qu'il fallait négocier, donner quelque chose à Mahmoud Abbas. Ça n'a pas été fait, Sharon n'a pas voulu le faire, et le Hamas a effectivement gagné les élections. Et donc le blocus, il est quand même israélien. C'est-à-dire qu'il faut voir que ces 2 millions de personnes sont enfermées, ne peuvent pas sortir. Et il faut aussi d'ailleurs, on n'en parle pas toujours, dire que le blocus est aussi côté égyptien. Parce que si l'Égypte ne participait pas au blocus, les Gazaouis pourraient rentrer et sortir par l'Égypte. Donc c'est un blocus israélo-égyptien. L'Égypte participe au blocus de Gaza. Et donc effectivement, on vient de vivre une période de confinement qui a été un peu dure. Bah, ça fait depuis 2005, que depuis 2006, que les habitants de Gaza sont soumis à un blocus. Et quand ils sont bombardés, ils peuvent pas fuir puisqu'ils sont soumis à un blocus.
On va revenir un petit peu sur cette jeunesse palestinienne qui est à l'origine de cet embrasement, une jeunesse, on l'a dit, désaffiliée, qui n'est pas, qui discrédite un petit peu les partis, hein, ni Mahmoud Abbas, ni le Hamas n'ont vraiment, voilà, d'importance à leurs yeux, et ils s'engagent vraiment pour une forme de micro-combat. C'est comme s'ils se réappropriaient le conflit, en pensant qu'il fallait demander des revendications égalitaires, concrètes.
Je ne vais pas me présenter comme un spécialiste de la société palestinienne que je ne suis pas. Je suis pas un sociologue, mais effectivement, on voit que ces jeunes sont à la fois enfermés et connectés. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui se passe à l'extérieur, ils sont connectés, ils ont accès au monde extérieur par les réseaux sociaux, par Internet, par les nouvelles technologies d'information et de communication, et ils sont enfermés là où ils sont, parce qu'ils ne peuvent pas quitter Jérusalem, sinon ils perdent leur droit de séjour, etc. Et à Gaza, il y a un blocus. Et donc effectivement, c'est l'absence totale de perspective pour cette jeunesse, qui effectivement, pour beaucoup, ne se sent ni représentée par Mahmoud Abbas, auquel il reproche à la fois sa corruption et sa coopération sécuritaire avec Israël, on n'échange de rien, et ils ne sont pas non plus représentés par le Hamas parce qu'ils ne partagent pas le côté répressif du Hamas pour la plupart d'entre eux.
Et précisément, Mahmoud Abbas, il brille un petit peu par son absence en ce moment.
Il brille pas beaucoup, en fait, non. Et alors, il a toujours cru que les Américains allaient l'aider. C'est quand même assez, je dirais, dramatique de voir qu'il a toujours, depuis 15 ans, sans cesse pensé que les Américains allaient l'aider, alors que non, les Américains n'allaient pas aider les Palestiniens. Et en fait, peut-être que la meilleure chose à faire, ça serait de dissoudre l'autorité palestinienne. De dissoudre l'autorité palestinienne en disant, Israël nous occupe, occupez-vous de nous. Parce que là, en fait, il gère l'occupation. Mais bien sûr, il le fait parce qu'il y a intérêt, parce que lui-même profite de prébendes. On parle souvent de l'aide européenne, disons que ceux qui n'aiment pas que l'on parle de la Palestine disent « mais les Palestiniens sont les plus aidés, c'est le peuple le plus aidé au monde, regardez, ils sont corrompus, regardez, il ne se passe rien ». Alors oui, il y a de la corruption, enfin, il y en a aussi en Israël, d'ailleurs Netanyahou lui-même est accusé de corruption, mais surtout, si les Palestiniens pouvaient aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, produire librement, ne pas être soumis à des blocus, ne pas être soumis à des contrôles permanents, pouvoir exporter, rentrer et sortir, ils n'auraient pas besoin d'aide. L'aide européenne, en fait, qui nous coûte à nous cher, finalement, comme contribuable, quelque part, c'est une aide à l'occupation, puisque l'on vient soulager les misères des Palestiniens et que, du coup, Israël n'a pas à s'en occuper. Donc, on peut se demander s'il ne faudrait pas, finalement, dissoudre l'autorité palestinienne, cesser l'aide européenne aux Palestiniens et qu'Israël s'occupe du peuple qui l'occupe, puisque c'est lui qui crée cette situation.
Et alors, cette crise, elle est aussi, comme vous le rappeliez d'ailleurs, le fruit d'une absence totale de perspective pour les Palestiniens des territoires palestiniens et aussi d'une très forte progression du nationalisme d'extrême droite côté israélien. Diriez-vous que le gouvernement de Benjamin Netanyahou a sous-estimé ou n'a pas su prendre la mesure à la fois des opérations qu'il a prises à Jérusalem, dont j'ai parlé tout à l'heure, les barrières de sécurité, les interdictions de déplacement et l'assurance croissante de ses alliés d'extrême droite qu'on a vu se déployer notamment dans les rues de Jérusalem? ces groupuscules d'extrême droite religieuse qui sont allés à l'affrontement avec un certain
nombre. Écoutez, il y a des nations, on a crié que... mort aux Arabes, des centaines de personnes ont crié mort aux Arabes. Si on avait crié mort aux Juifs, la presse française s'en serait beaucoup plus indignée. Et les centaines de personnes qui ont crié mort aux Arabes, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, Netanyahou a joué avec cela, lui, ça ne le gêne pas trop. Il a pactisé avec l'extrême droite. Auparavant, l'extrême droite israélienne n'existait pas, où il y avait quelques excités, mais il n'avait pas le droit de citer au Parlement. Merkan avait été interdit, etc. Et donc, les héritiers sont rentrés au Parlement suite à un accord électoral avec Netanyahou. Mmh. Et effectivement, c'est ça qui est dangereux, c'est que pour... jouer un peu, Netanyahou est un tacticien de génie, mais en même temps, l'héritage qu'il va laisser dans la société israélienne est quand même tragique, parce que l'extrême droite raciste, fasciste, on parle beaucoup d'islamo-gauchisme, mais là, il y a des judo-fascistes. Mmh. Ce sont des fascistes qui sont rentrés au Parlement, qui pèsent sur la société, qui s'opposent aux autorités israéliennes, qui ont envie de casser de l'arabe, et qui le font, les colons... ne sont pas arrêtés par les militaires lorsqu'ils viennent casser de l'arabe, etc. Et donc, et cette extrême droite s'est développée depuis déjà quelques temps. Elle devient de plus en plus forte de son impunité. Elle devient de plus en plus puissante. Et c'est un véritable problème, puisque ces gens-là ne sont prêts à faire aucune concession aux Palestiniens, dont ils estiment que ce n'est pas un peuple qui existe et qu'ils n'ont rien à faire à Jérusalem, voire même dans certains quartiers de Cisjordanie.
Oui, on rappelle donc que des élections viennent d'avoir lieu, 4 élections
en deux ans.
Voilà, aucune coalition ne s'est dégagée jusqu'à présent.
Non.
6 députés d'extrême droite font leur entrée à la Knesset, c'est ça.
Oui.
Donc ce quatrième cycle.
Et l'extrême droite israélienne, c'est pas l'équivalent du. Disons que le Rassemblement national, ce sont des centristes modérés par rapport à l'extrême droite israélienne qui est violente, qui. Prône la haine ouvertement. Il y a des discours qui seraient punis pénalement en France, des propos que tiennent des responsables politiques d'extrême droite israélienne qui seraient interdits en France.
Dont un certain Itamar Ben-Gvir, c'est ça ?
Oui,
qui le 6 mai s'était rendu à Sheikh Jarrah, dont on va parler maintenant, où sont logées ces familles palestiniennes qui sont menacées d'expulsion. Et on avait un peu interprété ça comme une forme de provocation de sa part, comme il soutenait les différentes actions des colons. Donc ce quatrième cycle de violence a été inauguré comme la dernière intifada d'ailleurs en 2000 lorsque Ariel Sharon s'était baladé sur l'esplanade des mosquées avec les gardiens de sécurité donc à Jérusalem-Est. Donc la ville revient au cœur de ce conflit et depuis 70 ans comme un fondement du nationalisme palestinien et de l'identité juive. Et alors pour bien comprendre ce qui se passe à Sheikh Jarrah, il faut aussi prendre en compte la dimension démographique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau démographique dans la zone de Jérusalem-Est ?
Ben en fait, il y a une croissance démographique palestinienne, malgré le fait qu'ils sont occupés, qu'on essaye de les expulser. Et donc, effectivement, le rêve de beaucoup d'Israéliens, c'est de débarrasser Jérusalem des Palestiniens. Ouais. Mais ils augmentent, leur pourcentage démographique augmente parce qu'ils ont une natalité plus forte. Et cela, alors, à Jérusalem-Est, bien sûr,
pas à Jérusalem-Ouest,
où ils ne sont pas présents. Et donc, c'est une donnée. Et puis, il y a une donnée démographique plus globale, c'est que sur l'ensemble Israël, territoire occupé, il va y avoir, où il y a déjà plus d'Arabes que de Juifs. Et que donc, ce que disent beaucoup d'observateurs, c'est qu'Israël se présente comme un État juif et démocratique, mais un État démocratique qui ne reconnaît pas de droit à la majorité n'est pas un État démocratique. Et donc, alors bien sûr, en fait, l'astuce, c'est de sortir Gaza de ce calcul. Et c'est pour cela que Sharon a fait un retrait unilatéral. Il ne l'a pas fait, comme l'ont dit certains naïfs ou certains cyniques, qui faisaient semblant y croire, mais qui n'y croyaient pas eux-mêmes, que c'était le premier pas vers la paix. Non, c'était une façon, au contraire, d'empêcher la paix. Puisque si vous retirez la bande de Gaza, ces 2 millions d'habitants du calcul juif-arabe, la balance démographique revient de nouveau de façon favorable pour les Juifs, et ils peuvent dire qu'il n'y a pas d'apartheid. Sauf que le terme d'apartheid a été utilisé par une grande ONG américaine, Human Rights Watch, qui est une organisation plutôt centriste, modérée, militante douce, Et donc, effectivement, le droit des Palestiniens, et voire même des Arabes israéliens, n'est pas le même que ceux des Juifs israéliens.
Mmh. Et pour revenir donc à ce quartier à Jérusalem-Est, la crainte de ces groupes d'extrême droite, de ces colons, c'est d'une certaine manière de voir l'identité juive disparaître de ces quartiers, c'est ça? Ils se sentent menacés
Ils se sentent menacés. Jérusalem est quand même une ville juive. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils prennent ça comme un... Disons que des familles juives qui peuvent mettre en avant des titres de propriété antérieurs à 1948 peuvent récupérer les biens dont ils auraient été privés en 1948. Par contre, des familles arabes ne peuvent pas. Donc, il y a déjà une égalité. Si une famille arabe dit « moi, j'ai des titres d'avant 1948 », on dit « ok, c'est dommage, mais vous n'y pouvez rien ». Et donc là, ce qui est présenté comme un problème foncier de querelle de titres de propriété sur quelques maisons ou appartements, quelques immeubles ou maisons, c'est en fait un problème plus fondamental qui a été vécu comme les Palestiniens, comme une sorte de nettoyage ethnique à rythme lent pour les faire tous partir de Jérusalem-Est.
Et j'aimerais bien qu'on dise un mot, enfin en tout cas ça va dans le sens de cette offensive extrême droite qu'on essaie de comprendre. La loi fondamentale de l'État-nation du peuple juif qui a été votée le 19 juillet 2018.
C'est un moment décisif dans les annales du sionisme et de l'histoire de l'État d'Israël.
Est-ce qu'elle constitue l'apogée de cette offensive nationaliste?
L'apogée peut-être pas, parce qu'il peut y avoir d'autres épisodes, mais renseignement important. Et là, qui est plutôt venu, être considéré par les Arabes israéliens comme une preuve supplémentaire qu'ils sont des citoyens de seconde zone et qu'ils ne sont pas à pied d'égalité avec leurs compatriotes qui sont juifs. Et donc, effectivement, cette loi qui a été très contestée, très combattue, a été adoptée. C'est un projet de Netanyahou, il y tenait beaucoup. Et donc, effectivement, elle vient un petit peu priver les Arabes israéliens, qui font 20% de la population, d'une partie de leurs droits et de leur appartenance, du fait de les reconnaître comme
c'est
des citoyens.
Elles fondent le droit sur les origines et les croyances.
Voilà, donc, complètement vraiment... sur les origines ethniques, sur les croyances. Et donc, c'est aussi un des autres problèmes qui va rester, parce qu'on a vu que pour la première fois depuis 2000, il y a eu des affrontements entre Arabes israéliens et Juifs israéliens. Il n'y en avait pas eu depuis 20 ans. Il y en a eu un peu en 2000, à la reprise de la seconde intifada, et puis après, les choses s'étaient calmées, parce que le niveau de vie des Arabes israéliens est supérieur à celui des Palestiniens, qui se sentent israéliens. Mais là, quand même, les messages qui leur ont été envoyés, c'est que non, ils ne sont quand même pas tout à fait israéliens, et qu'il ne faut pas qu'ils le croient, que l'extrême droite leur envoie des messages comme quoi ils n'ont aucune, puisqu'ils n'interviennent pas, qu'ils ne sont pas juifs, ils n'ont aucune raison de se considérer, d'être considérés comme des Israéliens. Et donc, ceci va laisser des traces. Ceci va laisser des traces parce que comment il y a une haine qui est ressortie, qui est alimentée par les affrontements, parce que forcément, les violences créent de la haine. Et donc, l'avenir de la cohabitation entre Arabes et Juifs a été rendu plus délicat par les événements de ces derniers jours.
D'ailleurs, on l'a vu, une révolte qui part de Jérusalem et qui s'étend aux villes dites mixtes.
Parce que pour les Arabes israéliens, Jérusalem les concerne, parce que Jérusalem, c'est aussi quand même en Israël, y compris pour la partie Est, etc. Ce sont solidaires, et puis surtout, c'est qu'on leur a renvoyé à la face leur absence de statut ou leur statut minoré.
Des citoyens de seconde zone, comme on les présente. Alors, est-ce qu'on peut dire, malgré tout, Pascal Boniface, que Benjamin Netanyahou, qui est quand même affaibli aujourd'hui, puisqu'il y a un procès quand même en cours, il ne réussit pas encore à dégager de coalition, est-ce qu'il, d'une certaine manière, il contribue aussi à affaiblir la démocratie israélienne?
Oui, très clairement, il a affaibli, et je pense que tous les bons connaisseurs de la vie politique israélienne disent qu'il y a une crise de la démocratie en Israël. Sali Cohen a fait un excellent livre, Une démocratie fragile, qui vient d'être publié. Effectivement, il y a une crise parce que les électeurs, 4 élections qui ne permettent pas de déboucher sur un gouvernement. Et Netanyahou est à la fois adoré par ses supporters et détesté par ses opposants. Il est très clivant. Donc, effectivement, il y a une crise de la société israélienne avec une montée de l'extrême droite ne peut pas laisser indifférents les démocrates.
Et justement, les démocrates israéliens, ils sont un peu pris en otage, ils sont un peu pris au piège de cette situation.
Il faut admettre que la gauche est quand même en très mauvaise posture, qu'elle n'existe peu, que le camp de la paix a été détruit en plusieurs étapes, mais notamment par les attentats du Hamas, par le chef du camp David, et par le fait que Ehud Barak, qui voulait négocier, est revenu après camp David en disant « nous n'avons pas de partenaire ». Et donc, quand vous dites aux électeurs qu'il faut négocier mais qu'il n'y a pas de partenaire, les électeurs vont voter pour ceux qui sont pour une solution de force. Mmh. Et donc, ils ont élu Ariel Sharon, qui est venu détricoter ce qu'il voulait faire depuis… Bon, il y a quand même l'assassinat de Isaac Rabin, qui compte quand même beaucoup. Parce qu'on a quand même assassiné le Premier ministre, et là, le terrorisme, généralement, ne parvient pas à ses buts politiques, mais là, l'assassin de Isaac Rabin a réussi, parce qu'il voulait faire mettre fin au processus de paix, et effectivement, l'assassin de Rabin a conduit à, au fait que le processus d'Oslo a déraillé, et que, il faut quand même rappeler que ceux qui ont préparé l'attentat, l'atmosphère de l'attentat, la haine contre Rabin, elle a été quand même nourrie par Sharon et Netanyahou, et que Léa Rabin, la veuve d'Isaac Rabin, n'a jamais voulu, après l'assassinat de son époux, serrer la main de Netanyahou et de Sharon, qui, pas personnellement, mais qui ont assisté à des meetings où Rabin était présenté en uniforme nazi. Et là, je renvoie à, il va y avoir une exposition de Amos Gitaï à la Bibliothèque nationale de France sur les archives d'Isaac Rabin, qui montre bien, disons, l'horreur du climat de haine contre un dirigeant israélien qui voulait vers la paix.
Yitzhak Rabin, d'ailleurs, qui, dans un discours de 1976, mettait en garde ses concitoyens du risque d'apartheid, de la tentation d'apartheid. Voilà.
Yitzhak Rabin n'était pas un pacifiste, attention, c'était général. Lors de la première intifada, il avait recommandé de casser les os des Palestiniens. S'il s'est lancé dans les accords de paix, c'était parce qu'il pensait que l'intérêt à long terme d'Israël serait mieux servi par la paix que par la continuation d'un conflit. Et la paix, on l'a fait avec ses ennemis, on ne l'a fait pas avec... Et en fait, il y a deux dangers pour Israël. Il y a ce danger, je dirais, international. Alors, les Israéliens peuvent dire, mais les Palestiniens, ce n'est plus un problème, ils sont derrière le mur, il n'y a plus d'attentats, on est tranquille, bon, de temps en temps, le Hamas envoie des roquettes, et puis bon... Mais en fait, le danger, il est interne pour la société israélienne. Parce que quand on vit en occupant notre peuple, bah, qu'est-ce que l'on fait ? On va démoniser ou diminuer le peuple qu'on opprime. Mmh. Et donc, il y a en fait, disons que la société israélienne est atteinte à l'intérieur par l'occupation. Mmh. Et c'est en cela que de nombreux Israéliens sont aussi à l'occupation, parce qu'elles disent qu'eux aussi souffrent d'occupation, pas de la même façon que les Palestiniens, mais que quand vous occupez un peuple, bah, vous diabolisez le peuple, vous voulez le présenter sous son plus mauvais jour, et finalement, eh bien, ce glissement vers l'extrême droite, il est en grande partie alimenté par l'occupation. Parce que pour justifier l'occupation, bah, il faut que ceux que vous occupiez ne soient pas à votre niveau. Mmh. Il faut que vous les considériez comme des êtres inférieurs. Mmh. Sinon, quel droit vous les occupez ?
On peut faire un peu le bilan de l'administration Trump, notamment en pointant les deux accords qui ont contribué à marginaliser la position palestinienne. J'aimerais qu'on parle un peu des accords d'Abraham et du fameux pacte du siècle, modestement nommé ainsi par Trump. Alors, les accords d'Abraham, justement, c'est reconnaissance bilatérale de 4 pays arabes, qui sont le Bahreïn, le Maroc, les Émirats arabes unis et le Soudan, voilà.
Alors, pour des raisons différentes. Alors là, l'héritage de Trump, il est catastrophique, parce que Trump a dit « open bar pour Israël ». Mmh. Open bar pour Israël, il l'a fait pour des raisons électorales, pas par rapport à la communauté juive américaine, qui a voté aux 2/3, même plus qu'aux 2/3 pour Biden. Mmh. Et la communauté juive américaine n'aimait pas Trump et n'aimait pas les liens que Netanyahou avait avec Trump. Parce que la communauté juive américaine, elle est libérale. Et elle n'a pas un lien. Elle est de plus en plus un peu, je dirais, disons, de plus en plus prendre cette distance par rapport à ce qui se passe avec Israël. Alors, les organisations juives américaines comme l'AIPAC sont toujours très fortement engagées pour Israël, mais pas la communauté dans son ensemble. Mmh. Et puis, il y a aussi un lobby, puisque aux États-Unis, on peut employer ce terme sans se faire fusiller, il est même revendiqué, il y a un lobby libéral, juif américain, le G-Street, qui lui vote pour, milite pour la paix, milite pour les deux États. Mais Trump l'a fait pour les chrétiens évangélistes, qui sont antisémites, mais qui estiment que le Messie reviendra sur Terre. Pour qu'ils reviennent sur Terre, il faut que les Hébreux occupent les terres que Dieu leur a données. Donc, on n'est pas prêt d'avoir une paix prônée par ces gens-là. Et donc, c'est pour draguer cet électorat que Trump a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, où deux pasteurs antisémites sont venus, qui avaient tenu des propos antisémites, sont venus assister à la cérémonie. Donc, sur le débat antisémitisme-antisionisme, regardez Orban, qui a tenu des propos antisémites sur une grande échelle, et le seul dirigeant européen qui ne veut pas appeler un cessez-le-feu. Trump a fait tout cela. Résultat, les Émirats réunis ont reconnu Israël parce qu'en fait, ils ont été créés après la guerre des six jours. Ils ont été créés en 71, donc ils n'ont jamais été en guerre avec Israël. Et eux, leur problème, c'est l'Iran. Et donc, face à l'Iran, ils sont dans le même camp qu'Israël. Le Bahreïn l'a fait parce qu'ils sont en difficulté, le Bahreïn a fait ce que leur ont demandé les Saoudiens. Les Saoudiens n'ont pas pu le faire parce que c'était un peu trop gros. Le Soudan l'a fait en échange. Trump a dit au Soudan, vous êtes sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Si vous reconnaissez Israël, je vous retire. Donc l'économie va se développer. Et la jeune démocratie soudanaise a dit, OK, on y va. Et le Maroc l'a fait en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, qui est une cause sacrée au Maroc. Donc c'est le deal. Voilà, le deal, tu me donnes ça, je te donne ça, de la part de Trump. Mais là où... les plus lucides l'ont dit dès le départ, moi et d'autres, c'est que on ne fait pas la paix avec des gens avec qui on n'est pas en guerre. Donc, signer une paix entre Israël et Maroc, vu que ces deux pays ne sont pas en guerre, signer une paix entre Israël et les Émirats arabes unis, vu que ces deux pays sont en guerre, ça ne sert à rien. La paix, il faut la signer avec les Palestiniens. Donc, ces accords d'Abraham ont été un écran de fumée. Ils ont été montrés comme l'accord du siècle, les pays arabes reconnaissent Israël, etc.
Une forme d'illusion, en fait, ça a entretenu une forme d'illusion, y compris pour les Israéliens, en fait.
En disant, génial, c'est vrai qu'ils ont... En 67, il y a eu un triple nom arabe à Khartoum, le 1er septembre.
Symboliquement, le Soudan, c'est quand même le front du refus.
Non à des négociations, non à la paix, non à la reconnaissance d'Israël. Donc là, la reconnaissance, c'est un gain diplomatique pour Israël, effectivement. D'ailleurs, Israël a marqué beaucoup de points diplomatique depuis quelque temps. Les pays arabes, les Saoudiens, qui ne peuvent pas le reconnaître officiellement, mais disons qu'ils ne vont pas se targuer, mais il y a un concubinage. Parce que pour les raisons iraniennes, comme toujours, progrès en Afrique avec Kagame, d'autres pays aussi africains où Israël offre des solutions sécuritaires, progrès au Brésil, puisque Bolsonaro, disons que la gauche brésilienne était très pro-palestinienne, pro-droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bolsonaro, lui, c'est les chrétiens évangélistes, de nouveau, donc, pour Israël. Il y a des liens très étroits entre Netanyahou et Poutine. Les Chinois regardent aussi Israël en disant, on soutient des positions, mais quand même, on peut faire du business, notamment en matière d'eau technologie. Et les Européens, qui étaient plus actifs auparavant, ne le sont de moins en moins. Un, parce que l'Allemagne s'interdit toute action par rapport à Israël, que les pays de l'Est sont complètement alignés sur les États-Unis. Les nouveaux membres de l'Union européenne, eux, les Tchèques, les Polonais, ils n'ont pas d'avis sur la question israélienne, israélo-palestinienne, mais comme les États-Unis sont pro-israéliens, ils sont pro-israéliens. Et puis, il faut l'admettre, la France, qui était très active sur ce dossier-là, l'est nettement moins.
Et vous pensez, pour revenir à ces fameux accords, vous pensez que la situation actuelle peut impacter, peut avoir un effet sur les pays arabes, sachant que les populations sont un peu...
Écoutez, au Soudan, ils ont leur agenda interne, donc il faudrait... Alors, bien sûr, en même temps, il y a une opinion publique au Soudan, c'est civil, on l'a vu. Donc, si ça se dégradait trop, s'il y avait trop de bombardements, s'il y avait trop d'images catastrophiques à Jérusalem ou à Gaza, le gouvernement soudanais sera en difficulté. Pareil pour le roi du Maroc. Si la situation se dégradait trop, le roi du Maroc sera en difficulté. À Bahreïn, la population est sous contrôle. Ils n'ont pas trop leur mot à dire. En même temps, il y a une majorité de chiites, et on sait que l'Iran insiste beaucoup sur la cause palestinienne. Donc, ces pays ne sont pas en difficulté, mais si la situation se dégradait trop, ça serait un peu gênant quand même d'avoir accepté de signer la paix avec Israël sans que, puisque la condition, le plan Abdallah, c'est pour ça que les soucis, les Saoudiens n'ont pas signé, c'est-à-dire avant, OK, on reconnaît Israël. Les pays arabes avaient accepté de se retirer du triple nom de Khartoum en disant, le plan Abdallah de 2002, c'est on accepte de reconnaître Israël dans les frontières de 67 si Israël accepte la reconnaissance de l'État palestinien, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout à l'ordre du jour.
Et vous pouvez nous dire un mot de ce pacte du siècle
C'était presque accepté une partie de l'annexion de la Cisjordanie. Les États-Unis ont reconnu l'annexion sur le Golan. Ils pensent que les colonies ne sont pas illégales, alors qu'auparavant, la position même des présidents les plus pro-américains, même de George Bush, était que oui, les colonies sont illégales, etc. Donc, Trump ne s'est opposé en rien à Netanyahou. s'est opposé en rien à Netanyahou. Et on promettait aux Palestiniens
comme capitale.
Et on promettait aux Palestiniens, on appelle des flots d'argent en échange de la paix, en pensant que la croissance économique ferait oublier la demande d'indépendance nationale. Ce qui est une illusion. Parce que les Palestiniens n'ont pas attendu si longtemps, n'ont pas enduré tout ce qu'ils ont enduré, pour tout d'un coup dire « Ok, avec une croissance de 6% par an, on va accepter de ne plus jamais avoir un État. » Non, c'est pas possible.
Alors, j'allais vous demander si vous pensiez que l'administration Biden allait faire un peu marche arrière, mais a priori, au vu des premières...
Il y a un débat. Le débat qui a été interdit sur l'aide américaine à Israël, ce débat était interdit.
Celui-là, oui.
Là, il est ouvert. Pourquoi ? Il est ouvert, alors pas par Biden, mais il y a la jeune garde démocrate, notamment Alexandra Ocasio-Cortez.
Bernie Sanders, qui vient de signer une tribune
Juif, qui s'est toujours, qui a été le plus critique à l'égard d'Israël et qui ne veut pas du tout mettre les pieds à l'AIPAC, etc. Donc il y a cette jeune garde. Le fait de détruire l'immeuble où il y a cette presse, ça ne plaît pas trop. Les Américains sont attachés à la liberté de la presse. Le rapport de Human Rights Watch pèse aussi. Il y a ce sénateur juif de Géorgie qui a critiqué, qui appelle un cessez-le-feu. Donc, cette question qui était taboue aux États-Unis, du soutien inconditionnel à Israël, commence à lever. Mais c'est prématuré.
Enfin, en tout cas, pas de résolution pour l'instant. Washington fait blocus.
Et alors, qu'est-ce qui fera bouger Biden ? C'est s'il y a un nouveau massacre. S'il y a des images insoutenables pour l'opinion, là, il fera plus pression sur Israël. Mais pour l'instant, il va attendre qu'Israël décrète un cessez-le-feu de façon unilatérale.
Le sujet majeur pour Biden, ça reste l'Iran, justement.
Ça reste la Chine. C'est la Chine. Alors, son sujet majeur, c'est la Chine. Et le sujet majeur au Proche-Orient, c'est l'Iran. Et il ne veut que ni les Saoudiens, ni les Émiratis, ni les Israéliens ne viennent spolier son dossier iranien.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la position française sur ce dossier ? La France vient de proposer une résolution à l'ONU avec la Jordanie et l'Égypte. Comment vous interprétez un petit peu cette...
La France refuse officiellement tout contact avec le Hamas, donc c'est difficile de jouer les médiateurs quand vous n'avez pas de contact avec une organisation. Alors bien sûr, on va dire le Hamas est une organisation terroriste, etc. Mais bon, je veux dire, quand il a fallu faire la paix en Algérie, on a négocié avec qui ? Avec le FLN, qui était considéré comme un terroriste. On n'a pas négocié avec les Algériens, avec les Harkis ou les Algériens qui étaient Algérie française. Il faut négocier avec ceux qui sont en face. Bon, déjà, donc, on s'automutile en ne voulant pas négocier avec le Hamas pour faire plaisir à Israël. Et puis, en plus, on appelle au cessez-le-feu, sauf qu'on a un sabre de bois. Dans la mesure où Israël va dire fume, enfin moi je continue les bombardements, et c'est pas parce que la France demande à cesser le feu qu'Israël va cesser le feu. Pourquoi ? Parce qu'en fait Israël sait qu'il ne se passera rien, que la France ne prendra jamais aucune décision, et qu'il y a un découplage total entre des positions qui sont radicalement différentes sur l'avenir du conflit. Les positions françaises et les positions israéliennes sont aux opposés, mais on n'en tire aucune conséquence dans les relations bilatérales. Donc, quoi qu'il se passe, on aura toujours de très bonnes relations bilatérales. Et Emmanuel Macron a quand même fait des déclarations qui venaient un peu assimiler antisémitisme et antisionisme, ce qui est un non-sens intellectuel. J'en renvoie l'excellent livre de Dominique Vidal sur ce sujet. Et surtout, c'est que c'est une sorte de rayon paralysant pour empêcher toute critique politique du gouvernement israélien.
On l'a vu samedi 15 mai avec cette manifestation qui a été interdite à Paris, qui a quand même eu lieu, que ça réveillait aussi les hostilités politiques, des fractions à gauche, également avec un consensus de plus en plus difficile à obtenir. Qu'en est-il de cette fameuse cause palestinienne, justement
La cause palestinienne, on peut dire que le PS n'est plus mitterrandien et que les républicains ne sont plus gaullistes. Bon, le PS a toujours eu une attitude très pro-israélienne. La SFIO, c'est l'héritier, enfin la SFIO était très pro-israélienne. Après, Mitterrand est venu changer ça. Mitterrand, quand même, était devant la Knesset en 82. Ça a été le premier chef d'État occidental. Il y avait Kresky aussi, qui était juif, mais qui était autrichien, il était neutre. Mais le premier chef d'État occidental qui reconnaît aux Palestiniens le droit d'avoir un État, c'est Mitterrand.
Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort. à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence.
Et donc, il avait bousculé le PS. Mmh. C'était pas... Bon, après, dans les années 90, c'est Oslo, donc tout le monde pense que la paix va arriver. Et puis, en 2001, c'est de nouveau l'intifada. Et c'est là où je fais mes notes au PS en disant on ne peut pas mettre dos à dos occupant et occupé. Et c'est là que je me fais ratatiner. Je suis défendu par certains, attaqué par d'autres, etc. Et donc, en fait, le PS a abandonné cette position mitterrandienne. Mmh. Quant aux républicains, ils sont devenus, vous voyez, le Estrosi qui se dit gaulliste met le drapeau israélien à la mairie de Nice. Le parti républicain est totalement pro-israélien, donc De Gaulle n'est plus du tout dans le scope par rapport à cela. Mmh. Donc effectivement, il y a les différents partis politiques. Alors qui soutient encore la... Alors, et d'ailleurs, j'aime pas trop ces termes pro-palestinien, pro-israélien. Mmh. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Moi, je suis pro-israélien, je suis pour l'existence d'Israël. Mmh. Mais je suis aussi pour le droit des Palestiniens à avoir un État. Et donc, ceux qui plaident pour l'existence, disons, du droit des Palestiniens à avoir un État, et qui, disons, disent que pour y parvenir, il faut éventuellement peut-être faire des pressions sur Israël, parce que c'est quand même Israël qui occupe la Palestine, pas l'inverse. Dans cela, il y a les Verts, mais pas tous. Je pense que... Je suis pas sûr que Jadot soit très allant sur cette question-là. Éric Piolle, certainement beaucoup plus. Servette Bassa, bien sûr, etc. La base militante des Verts, il y a le Parti communiste, il y a la France insoumise, le PS est divisé, La République en marche est divisée, et le Rassemblement national est plutôt du côté d'Israël, et les Républicains également.
Mmh. Et les invectives aussi, en termes d'islamo-gauchisme, font des ravages à gauche notamment, et démobilisent...
Oui, c'est un non-sens intellectuel, un non-sens scientifique, un non-sens académique. D'ailleurs, on parlait beaucoup d'islamo-fascisme juste avant. Et je veux dire, il n'y a quand même pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir que le fascisme et le gauchisme ne sont pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'islamo-fascisme et le gauchisme ? C'est l'islam. Donc c'est une façon de démoniser, diaboliser les musulmans, et de refuser à ce que les musulmans puissent s'exprimer en tant que tels. Et les gens, les petits malins qui ont dit ça, ont dit les gauchistes sont impopulaires, les islamistes sont impopulaires, on marie les deux termes. Avant, on parlait d'islamo-fascisme, mais comme il y a maintenant de plus en plus aussi de fascistes en Israël, bah, peut-être qu'on s'est dit qu'il fallait plutôt dénoncer le gauchisme. Alors c'est vrai que c'est plutôt à gauche qu'il y a les soutiens pour le droit des peuples à disposer d'eux, parce que, bah oui, quand on est... c'est aussi pour ça que certaines personnes à gauche ne sont pas à l'aise. Mmh. Parce que ça me paraît quand même très compliqué de se dire de gauche et de ne pas reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mmh. C'était la SFIO, c'est comme ça que la SFIO est morte. Parce que la SFIO se disait de gauche, mais elle était pour la guerre d'Algérie. Et c'est comme ça que Guy Mollet a trahi beaucoup. Bon, donc il y a encore Guy Mollet quand, présent. Dans certains, il y a encore une monétisation de certains esprits de gauche. Quand on est de gauche, normalement, on est quand même pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ne pas le reconnaître est quand même un vrai problème.
Mmh. Et vous-même avez été invectivé aussi.
Oui, pour le moins, oui.
Islamo-gauchiste.
Oui, antisémite, etc. J'ai écrit un bouquin où je raconte tout ça.
Comment vous expliquez, oui, voilà.
Ah ben, c'est simple, c'est que quand vous êtes en contradiction et que vous n'êtes pas prêt à débattre, moi je suis prêt à débattre avec tout le monde. J'ai fait un bouquin avec Xavier Tchemla, j'ai fait un bouquin avec Gilbert Golnadel, j'ai fait un entretien avec Finkielkraut. J'ai jamais refusé aucun débat, y compris avec les plus radicaux des partisans d'Israël. Quand vous ne pouvez pas contrer les arguments, vous caricaturez les arguments. J'ai dit qu'il ne fallait pas faire peser le poids des communautés. On dit que je fais du communautarisme, je ne me suis jamais présenté à aucune élection, etc. Alors, on dit que ceux qui défendent le droit des Palestiniens font de l'islamo-clientélisme. Mmh. Mais à mon avis, ceux qui ne veulent pas critiquer Israël, ils font quoi ? Ils font pas une sorte de clientélisme aussi ? Ceux qui défendent le droit des Palestiniens veulent juste défendre le droit international et une fois encore le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc effectivement, quand vous êtes mis en face de vos contradictions, que vous dites de gauche et que vous n'êtes pas pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bah, quelle est l'arme absolue ? T'es antisémite. Et donc vous répétez en boucle antisémite, il y a des gens qui le croient. Moi j'ai vécu très heureux pendant très longtemps de mémoire de 79 à 86, 87 rue des Écouffes, entre la rue des Rosiers et la rue des Bolis, dans le quartier juif, j'étais très heureux, etc. Mais aujourd'hui, certains propagandistes ont tellement alimenté la haine à mon égard que beaucoup de juifs qui ne me connaissent pas me détestent sans me connaître. Parce qu'ils ont tellement entendu sur les radios communautaires, dans les différents débats, que j'étais antisémite, qui sont parvenus à le croire, alors que je défie quiconque de soulever la moindre phrase antisémite, la moindre déclaration antisémite dans mes propos, mes différents écrits. Et vous imaginez bien que s'il y en avait une seule, un seul dérapage, ça ferait des choux gras depuis longtemps. Donc voilà, je n'ai jamais tenu un propos antisémite, j'ai toujours dit que je ne suis pas antisioniste. D'ailleurs, certains sont antisionistes.
Beaucoup sans de juifs, être antisémite.
Beaucoup de juifs sont antisionistes. Mmh. C'est leur droit, moi je ne le suis pas. Bon, et je ne suis ni antisioniste ni antisémite, mais beaucoup de gens pensent sincèrement que je le suis, que je suis les deux. Mmh. Parce qu'ils ont été, ils ont été abreuvés d'une propagande de haine à mon égard.
On va juste, je vais juste vous demander un petit peu votre point de vue sur la possible sortie de crise concernant ce conflit. Quel scénario imaginez-vous?
Ben en fait, quand est-ce qu'on met fin à une guerre? Quand une partie gagne contre l'autre. Mais il n'y aura pas de, victoire palestinienne sur Israël, ouais. Et les Israéliens, sauf à virer tous les Palestiniens, ne vous ne gagneront pas. Bon. Ou la communauté internationale impose une solution. Mais imposer une solution veut dire faire pression sur Israël pour qu'il se retire de Cisjordanie. Or, personne ne veut faire ça. Donc, vous allez avoir un cessez-le-feu bientôt.
Un calme, mais précaire.
Et puis, le conflit reprendra. Voilà.
Malheureusement. Merci infiniment, merci Pascal Boniface.
Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr/soutenir. Blast, c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et Peertube, et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous pour ne rien rater de nos contenus et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.